podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Mais oui, c'est Human une fois de plus avec aujourd'hui sur le thème de l'urgence et de la sécurité, Benjamin Courlet. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci Benjamin Courlet d'être avec nous pour cet entretien. Vous êtes ce qu'on appelle un humanitaire, un de ces baroudeurs qui parcourait le monde à la recherche d'adrénaline, c'est bien ça?
À la recherche d'efficacité avant l'adrénaline, oui.
Oui. Efficacité pour faire quoi?
Pour tenter d'être utile autant qu'on peut l'être aux personnes en situation de souffrance, oui.
Alors cette émission, Benjamin Courlet, vous la connaissez bien parce que vous en êtes l'un des initiateurs. On l'a démarré il y a peut-être un an et demi et on l'a démarré avec vous. Et je vous remercie donc d'être là. Je te remercie, je vous remercie. On ne sait plus si on se voit, si on se tutoie, d'être là pour un peu faire un premier anniversaire de cette émission. Voilà, on a eu cette idée parce que l'humanitaire est un thème qui intéresse tout le monde. Alors certains humanitaires disent l'écologie a pris dans la place dans la tête des jeunes. L'aura qu'avait l'humanitaire autrefois. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui, alors effectivement, je pense que aujourd'hui la catastrophe écologique, en tout cas l'urgence écologique est effectivement fait l'unanimité en France. Et peut-être qu'effectivement l'humanitaire dont on a vu l'émergence dans les années 70 a peut-être un petit peu laissé la place, notamment dans les médias. Après, est-ce que il faut opposer ces deux thématiques? Je pense pas. On verra qu'elles sont extrêmement liées et complémentaires.
D'accord. Voilà. Alors cette émission, bien quand on est seul à seul avec un invité, c'est un peu un portrait. Et donc, on a tendance à poser des questions personnelles. Et celle qui me vient à l'esprit, c'est vous n'y avez peut-être pas pensé dans le ventre de votre mère à l'humanitaire. Mais comment ça vous est venu? Vous avez fait une école spécialisée dans ce domaine?
Oui, effectivement. J'ai pas de grands souvenirs du ventre de ma mère. Mes premiers souvenirs remontent un petit peu plus, sont un petit peu plus récents. Je pense qu'effectivement, cette passion pour l'humanitaire a émergé autour de 15-16 ans, et c'est progressivement affiné.
Quel est votre premier souvenir par rapport à ça? Un truc qui vous a accroché?
Oh, c'était une expérience personnelle du tsunami en Indonésie, 2004.
D'accord.
2004, et effectivement, à partir de là, je crois avoir trouvé ma voie. Donc, ça a été ensuite un long cheminement qui m'a effectivement amené à faire des études dédié à l'humanitaire et à tout simplement commencer à y travailler.
C'est-à-dire, vous étiez en Indonésie au moment du tsunami? Vous étiez touriste?
Oui, j'étais un touriste tout à fait lambda. Et voilà, c'était simplement, j'ai pas été victime à titre personnel, mais c'est simplement la première confrontation, on va dire, avec une situation d'urgence humanitaire. Et ça m'a tout simplement très intéressé et j'ai fait le choix d'y consacrer une partie de ma vie.
Est-ce qu'il vous est arrivé de le regretter?
À aucun moment. Alors, on peut regretter parfois des décisions qu'on a pu prendre au cours d'une mission. Hein, on a pu faire, j'ai pu faire des erreurs, on va dire, professionnelles, mais en tout cas, regretter ce choix-là, non, à aucun moment. Et si c'était le cas, j'aurais tout à fait la liberté aujourd'hui de changer de voie. Donc, non, j'en suis pour l'instant toujours extrêmement satisfait et heureux.
Non, mais je pense à quelque chose auquel tout le monde pense, et qui est la vie personnelle. Il est difficile quand on mène une vie d'urgentiste, parce que c'est votre métier dans l'humanitaire. Il est difficile, j'imagine, d'asseoir une famille, d'avoir femme et enfants, et de rentrer au foyer tous les jours à 6h30.
À 6h30, comme à 20h, comme à minuit, effectivement, c'est, j'allais dire, impossible. Alors certains arrivent allier un petit peu leur vie personnelle avec cette vie d'urgentiste. Ça demande effectivement des choix, voire des sacrifices que certains acceptent mieux que d'autres ou plus longtemps que d'autres. Donc voilà, tout est une question de choix et de stabilité personnelle. Donc je pense qu'il reste quand même extrêmement important de viser cet équilibre pour pouvoir être pleinement épanoui et surtout éviter que l'humanitaire devienne une drogue ou devienne finalement sa seule voie possible. Parce que sinon, ça, peut-être que la notion de plaisir et de sens pourrait un petit peu se perdre au profit d'une obligation professionnelle. Et je pense important de jamais avoir cette idée de carrière pour pouvoir toujours se remettre en question et avoir la liberté de changer de voie si on considère un jour être trop fatigué ou simplement ne plus être à la bonne place.
Et quand vous étiez jeune, alors que vous avez démarré, que vous avez dit, tiens, je veux faire des études dans ce domaine-là, au passage, d'ailleurs, vous avez fait quoi comme études? Vous avez fait une école spécialisée?
Oui, j'ai fait l'école 3A, oui. Donc l'école 3A à Lyon, qui effectivement m'a permis d'atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Alors, il y a d'autres écoles également qui proposent des parcours pour de futurs humanitaires, notamment l'école Bioforce et quelques autres en France.
Et donc, quand vous avez dit à vos parents, tiens, je veux faire ça, ils ont bien réagi?
Je pense qu'ils savaient pas exactement de quoi je parlais. Hein. C'était pas extrêmement clair à l'époque. Et après, c'est un parcours qui a été progressif. Donc, au fil des expériences, au fil de mes missions, ils ont également, eux, comme mon entourage de manière plus globale, ont pu mieux comprendre et également me faire confiance au fur et à mesure de mes expériences.
Ils vous ont pas dit « t'es un fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, pourquoi tu restes pas ici, prends-toi une femme et des enfants,
oui,
tiens-toi bien, quoi
». Alors, effectivement, il a pu m'arriver d'entendre qu'il y avait également des gens qui avaient besoin d'aide en France, ce qui est exactement malheureusement le cas. Mais encore une fois, je pense pas qu'il faille mettre en opposition les personnes dans le besoin en France ou à l'étranger. Il faut faire notre maximum, quelle que soit la situation. Après, il s'agit tout simplement d'un intérêt personnel. Qui n'est pas contradictoire et peut-être qu'effectivement dans l'avenir je pourrais faire le choix de revenir en France avec une vie sans doute un petit peu plus stable mais toujours j'espère en gardant ce même intérêt, cette même passion pour la solidarité de manière générale.
Voilà, la solidarité. C'est quoi d'être attiré par la solidarité? Ça veut dire quoi au plan personnel?
Ça veut dire, je pense, pour moi, je le vois absolument pas comme un sacrifice. C'est tout simplement essayer de conjuguer un intérêt, un plaisir personnel à vivre effectivement des expériences très spécifiques, avec, comme je le disais, l'ambition d'une utilité, l'ambition de pouvoir, de faire en sorte d'avoir un certain impact. Aussi minime soit-il, parce que parfois je pense que on aimerait être beaucoup plus efficace qu'on ne peut l'être. Mais en tout cas, le plaisir et le plaisir et l'efficacité, c'est des notions que je tends à réunir.
Est-ce que parfois on peut désespérer des hommes?
Alors effectivement, on aurait tout un tas de raisons de désespérer. Je pense que on n'est pas obligatoirement un humanitaire pour avoir des raisons de désespérer. Et à l'inverse, on a également énormément d'exemples, que ce soit, je pense, en France ou dans les différents pays dans lesquels je peux être amené à travailler, énormément d'exemples d'espoir, des gens exceptionnels, des gens optimistes, des gens courageux, quelle que soit leur nationalité ou leur culture. Et donc, on peut faire le choix également de se rattacher à eux pour être optimiste.
Voilà, parce qu'il en faut quand même de l'optimisme, il en faut du goût de vivre. Quand on arrive et qu'on est devant, j'imagine, des populations touchées, travaillées qu'il s'agisse d'une urgence climatique ou d'une urgence humaine liée à un conflit ce qui est peut-être encore plus dur, parce que ce sont les hommes qui sont là, les responsables. Ça ne doit pas être facile, pas être possible d'arriver, et puis, comment dirais-je, d'avoir une attitude négative, pessimiste.
Après, je pense que tout dépend également des personnes, hein, tout dépend de l'ossature personnelle de chacun. Est-ce qu'il est obligatoire d'être optimiste pour agir? J'en suis pas persuadé. Ce qui est important au premier égard, c'est déjà d'essayer de rester professionnel, de faire son métier avec passion, avec sérieux. Et ensuite, bon, voilà, c'est un petit peu la liberté de chacun d'y croire ou pas. Hein. C'est un choix personnel. Voilà, moi j'essaie de rester optimiste parce que c'est également une motivation et la condition de mon plaisir. Mais encore une fois, on nous demande surtout d'être efficace, d'être à l'écoute de la situation, à l'écoute des gens, plus que d'avoir des idées, j'ai envie de dire.
Je comprends, bien que ce ne soit pas interdit.
Absolument pas. Il y a toujours effectivement quand même une, au moins à l'origine de cette vocation, il y a toujours quand même une part d'idéalisme, une part d'espoir qui nous invite à l'action. Initialement, je pense qu'elle est obligatoire, et donc ensuite on essaie de l'entretenir du mieux possible au gré de ses expériences.
Mais alors justement, entre comment dire les espoirs, l'imaginaire que le jeune homme qui commence des études dans ce domaine-là a en tête et la réalité, quel est le gap, quelles sont les différences, est-ce que vous comprenez ma question?
Alors encore une fois, je pense que déjà quand on fait le choix de s'investir dans l'humanitaire en étant jeune, on a des idéaux, on a également tout un tas de clichés sur que ce soit le monde ou les situations qu'on va rencontrer. Donc finalement, quels que soient ces idéaux, on commence par être surpris. Hein, chaque fois qu'on est amené à se déployer dans une zone, on est surpris par un environnement, un contexte des personnes. Et finalement, on apprend à ne plus du tout avoir d'idées préconçues. Et je pense que c'est ça qui est aussi extrêmement important. Toujours pouvoir se remettre en question, remettre en question les idées initiales pour pouvoir s'adapter tout simplement à la réalité. Donc j'ai pas comme ça en tête d'éléments spécifiques de distanciation entre les espoirs que j'ai pu avoir il y a une quinzaine d'années et la situation aujourd'hui, mais je pense qu'il reste également très très d'actualité, c'est un sentiment de révolte, en tout cas une volonté d'agir, quelles que soient les situations. Je pense simplement que c'est une lutte contre l'immobilisme et contre le... Oui, on essaie tout simplement de faire changer les choses, quelles que soient, encore une fois, les motivations intérieures qui nous amènent à cela, mais l'idée est quand même de vouloir agir.
Plongez dans vos souvenirs, Benjamin, et essayez de vous souvenir d'un moment où vous avez ressenti de la révolte. C'était quand? C'était où?
Oh, c'était très récemment, hein. C'est très récemment où malheureusement c'est à chaque mission. C'était en République démocratique du Congo sur une urgence Ebola. Où pour différentes raisons, on n'a pas eu l'autorisation d'agir tel qu'on le souhaitait et tel que la population le souhaitait. Voilà. Pour différentes raisons.
Concrètement, vous vouliez faire quoi?
Bah, concrètement, on souhaitait faire plus, c'est-à-dire on souhaitait apporter davantage d'appui à la communauté qui était sujette à cette épidémie Ebola. Et pour des questions politiques, voilà, ça n'a pas pu être possible. Donc c'est quelque chose encore une fois qui est régulier, hein, parce que les autorités nationales ou régionales demeurent bien sûr légitimes dans leur pays et dans leur région.
Vous les respectez toujours?
On les respecte bien évidemment parce qu'encore une fois elles sont légitimes. En tout cas, on a besoin d'elle pour travailler.
Même quand c'est une dictature, c'est légitime?
Après, effectivement. Et donc là, je ne parle bien sûr plus du tout du Congo, mais il y a également certains pays dans lesquels l'État lui-même, le système étatique, discrimine un type de population ou est partie prenante à un conflit. Et dans ce cas, effectivement, nous, notre mandat humanitaire, c'est de travailler de manière neutre et indépendante. Donc, essayer de trouver notre espace pour pouvoir soutenir toutes les personnes en situation de souffrance et ne répondre à aucun État ou à aucun belligérant. Donc voilà, c'est un espace qu'il faut trouver. Mais après, il faut aussi garder en tête que les autorités d'un pays restent légitimes. Donc il y a tout un tas de débats en interne dans l'humanitaire avec le droit ou le devoir d'ingérence. C'est un débat qui est ancien. Mais la réalité du terrain fait qu'il faut toujours essayer de, voilà, de trouver sa place entre la légalité ou parfois l'illégalité, en essayant d'avoir un impact, parce qu'effectivement, il est aussi, il arrive encore aujourd'hui que des ONG soient expulsées d'un pays, parce que tout simplement les autorités les refusent pour différentes raisons. Donc, si les autorités nationales refusent l'accès d'une ONG, ben effectivement, il est quand même extrêmement compliqué de venir outrepasser leur décision.
Et alors là, concrètement, pour revenir à cette épidémie d'Ebola, c'était au Congo, donc c'était en 2000...
C'était il y a quelques mois.
Il y a quelques mois, ah oui, en 2019. Donc, l'ONG dont vous dépendiez, on n'est pas obligé de la citer, voulait faire un type d'action que vous aviez prescrit, et les autorités s'y sont opposées.
Voilà, c'était tout simplement la population qui nous demandait de mettre en œuvre certains types d'activités.
Pour les soigner?
Pour les soigner, pour surtout les prémunir du risque de contamination. Et les autorités avaient un autre plan d'action. Et encore une fois, les autorités ont mis en œuvre leur propre plan, et donc la population, tout comme nous, avons regretté cette décision. Donc voilà, on en a parlé énormément avec les autorités pour essayer de les convaincre, mais le reste, les décisionnaires finaux de ce type de situation.
Et si on suppose que la population se révolte à ce moment-là, dans une tension plus importante que celle que vous avez vécue, vous allez prendre parti?
Alors, non, le rôle, je pense, encore une fois, les ONG sont extrêmement multiples, mais le rôle des ONG internationales et professionnelles, encore une fois, c'est un mandat humanitaire, c'est-à-dire d'aider les personnes en situation de vulnérabilité. À aucun moment, ce type d'ONG ne prendra parti pour, encore une fois, un belligérant quel qu'il soit étatique ou non étatique, et en particulier, à aucun moment, une ONG sérieuse n'essaiera d'allier la population contre ces autorités. Ce n'est absolument pas notre rôle, et ce serait justement la définition de l'ingérence. L'ingérence politique. Donc, de l'ingérence humanitaire peut exister, mais là, il s'agirait de parler d'ingérence politique, et c'est absolument pas le rôle ni le mandat de ces ONG.
Alors, on va revenir sur cette différence entre ingérence humanitaire et ingérence politique, mais avant ça, on va peut-être s'offrir un petit moment de musique, et vous nous avez proposé Abidjan Faro du groupe Espoir 2000. Écoutez.
Abidjan est le plus doux au monde. Hein? Oh, il y a des coups, moi, des gros choses. Ça gagne.
Parmi nous, il y a des fous. Mais on s'en fout. Abidjan est doux. Ah, Tijo Magès. Ah, Ça tient la foule. Tient la foule. Tijo Magès.
Hey, Abidjan taximètre. Comment si Yop, j'ai 9000 qui va te dire quelque chose de ça? Il y a toujours un petit corset qui veut te rapa. Eh mon vieux, voilà ton fils. Ah, mon vieux. Où vous êtes petit, vous grandissez jamais. Vejo Dilinga, l'enfant Kenzo, Korobanu, Aimé Zébier, Robert Braza, David Monceau, Malik Towé, Désiré Kouadjo. Entendez par là les techniques d'approche. Assez de malhonnêtes. Tu vois le gomi, hey. Tu veux bombi, wow. Mais elles sont en boni. Donc tu yoï. Mais tu es Siri, Madou. Moussobetara Djamanike.
Voilà, nous sommes dans Human avec Benjamin Courlet sur Urgence et Sécurité. Benjamin Courlet, un homme qui parcourt le monde, appelé par des organisations non gouvernementales, quand il y a une urgence d'origine climatique, une urgence d'origine humaine, un conflit, et que, la présence de secouristes, la présence d'humanitaires est requise. Alors, Benjamin, vous opposiez à l'instant l'ingérence humanitaire qui serait acceptée, conseillée, à l'ingérence politique qui, elle, serait interdite aux humanitaires. Pouvez-vous décrire ces deux ingérences-là? On a parlé, Bernard Kouchner, machin, etc., du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence. Il s'agissait de quoi?
Alors, il s'agissait de considérer que la notion de droit de l'homme, la notion d'assistance... la notion de le droit fondamental pour chaque homme sur Terre à vivre de manière digne pouvait justifier le non-respect des autorités des frontières, tout simplement la liberté d'un État à avoir autorité sur son territoire. Donc effectivement, il y a eu énormément de débats au cours des dernières années. C'est un débat qui peut encore exister aujourd'hui. Est-ce que l'assistance humanitaire justifie que des acteurs, parfois étrangers, puissent intervenir sans autorisation dans un pays qui leur est étranger? Donc encore une fois, ce débat existe. Certaines ONG assument ce qu'elles appellent donc ce devoir d'ingérence.
Lesquelles, par exemple? C'est pas secret, ça.
Non, c'est pas secret. Après, bon, je pense que certaines sont connues.
C'est pas une dénonciation, elles le revendiquent.
Oui, elles le revendiquent. Après, il y a également un principe de réalité. Donc, je veux pas parler à leur place, mais il y a également un principe de réalité.
Non, mais c'est qui?
Qui fait que, des ONG sont pas, certaines ONG sont plus indépendantes que d'autres. Notamment dépendante des bailleurs de fonds. Et effectivement, plus une ONG sera indépendante par rapport à ses bailleurs de fonds, plus elle aura la liberté d'agir là où elle le souhaite et de manière complètement dissociée de tout agenda politique.
Les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les gens qui vont financer les institutions, puisqu'il y a deux sortes d'ONG, en gros, où il y a plusieurs sortes de financement. Il y a les ONG qui se financent exclusivement avec les dons que font les gens du public. C'est la raison pour laquelle ces ONG font tellement de publicité, qui parfois d'ailleurs sont critiquées, on y reviendra peut-être. Et puis, celles qui sont financées totalement ou partiellement par des institutions, par exemple l'Europe ou l'ONU, etc., ou des pays, évidemment, comme les États-Unis, l'Angleterre, etc., la Grande-Bretagne. Et donc, vous dites, celles qui sont financées uniquement par des dons privés sont plus indépendantes, ont les mains plus libres en quelque sorte.
Disons qu'effectivement, elles ont une capacité d'action qui est supérieure en termes d'indépendance. Après, quand on parle par exemple de bailleurs de fonds tels que l'Union européenne, les États-Unis ou les Nations unies, ces bailleurs de fonds importants s'attachent quand même à respecter au mieux possible les droits humanitaires. Mais par exemple, suite à l'élection de Trump aux États-Unis, il a fait le choix de suspendre tous les financements en direction d'ONG qui implémentaient des projets d'avortement. Voilà. Donc par exemple, ça pose quand même de gros problèmes éthiques parce que partout dans le monde, les ONG n'ont plus bénéficié des financements américains dès lors qu'elles pouvaient soutenir des avortements. Et il ne s'agit pas d'avortements pour des raisons politiques, mais même des avortements pour des questions médicales. Hein, des avortements.
Oui. Voilà.
Donc ça, effectivement, ça fait partie des contraintes de ces financements par des donneurs de fonds institutionnels. Parfois, effectivement, il est possible de se retrouver dans des situations qui peuvent être en contradiction, on va dire, avec les droits de l'homme ou avec tout simplement le mandat de ces ONG.
Voilà. Alors, votre métier, c'est un métier d'urgentiste. Il y a les urgentistes internes. Ceux du SAMU qui parcourent nos villes et parfois nos campagnes parce qu'il y a eu un accident ou parce que en situation de guerre, voilà, il faut intervenir. Et puis il y a, je ne parle pas du SAMU social, il y a des situations d'urgence internationales et vous répondez à ça. Vous répondez à ces demandes-là. C'est quoi une situation d'urgence au plan des humanitaires internationaux?
Alors, une situation d'urgence peut être extrêmement variée. Donc, effectivement, elle peut être de type naturel, un séisme, un tsunami, une inondation, un cyclone, hein, ou même une éruption volcanique. Hein, c'est tout type de catastrophe naturelle ou une épidémie. Et enfin, une situation d'origine humaine, donc un conflit, qu'il soit interne ou international. Chaque ONG ayant son propre mandat et son propre cadre d'activité, mais on peut considérer quand même que la définition générale d'une urgence, c'est lorsque un pays ou une zone en particulier rencontre une situation violente ayant un impact donc important et rapide sur une partie de sa population. Et dans ce cas, effectivement, chaque ONG en accord avec son mandat et également en accord avec le pays qui est touché par cette catastrophe va faire le choix d'agir ou non en faveur de ces personnes en situation de vulnérabilité. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'extrêmement différent d'une ONG à l'autre. Actuellement, donc on a bien sûr en tête la Syrie. Alors peut-être qu'on l'a justement pas assez en tête en Europe. Donc la Syrie fait encore partie des catastrophes humanitaires majeures, de véritables situations d'urgence. On pense également au conflit au Yémen. On pense à l'épidémie d'Ebola toujours au Congo ou à d'autres crises comme par exemple la crise des Rohingyas en Birmanie. Donc ça, ce sont quelques-unes des crises à fort impact médiatique et bien évidemment à juste titre. Après, on peut avoir des crises ou des urgences d'intensité plus réduite, mais qui nécessite la même attention et les mêmes efforts.
Voilà, donc cette urgence que vous caractérisez par l'impact et par la violence. Voilà, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de demander à notre chroniqueuse, Marion Curtillet, d'intervenir. Je crois qu'elle avait quelques idées pour désengorger les urgences en France. Écoutez.
On frappe à ma porte par Marion Curtillet.
Oui Pierre-Alain, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Depuis le temps que nous nous plaignons de nos urgences qui débordent, c'est votre invité qui, sans s'en douter, avait la solution. Cette chronique, du coup, n'est pas une chronique, mais un plan d'action. Un plan d'action à l'attention directe d'Emmanuel Macron, si vous voulez bien lui faire passer, car j'ai égaré son numéro de portable. C'est un plan d'action simple et efficace, comme nous les aimons tous les deux. Il se compose de 5 étapes. Premièrement, appelez Mark Zuckerberg et commandez 2500 casques de réalité virtuelle. Deuxièmement, faire réaliser par une société de production, en partenariat avec Médecins du Monde, une série de films immersifs de 10 minutes dans des hôpitaux de fortune sur des lieux de guerre ou de catastrophes naturelles. Troisièmement, établir une nouvelle procédure d'accueil dans les services d'urgence qui fera commencer tout séjour non urgent dans les urgences par l'immersion virtuelle du patient dans ces films. Quatrièmement, si, après ces 10 minutes, le patient estime toujours qu'il a sa place dans un service d'urgence, continuer la prise en charge selon les modalités habituelles. Pour tous les autres, les laisser repartir chez eux après les avoir aimablement remerciés de leur visite. Cinquièmement, rédiger les décrets d'application de cette procédure. Je vous entends déjà me dire, cher Pierre-Alain, que les syndicats ne laisseront jamais passer une telle réforme. Évidemment, vous avez raison, ils auraient bien trop peur que cette redoutable méthode de relativisation par l'expérience de la gravité des problèmes ne soit appliquée ensuite aux manifestations en tout genre dont nous avons la spécialité. Imaginez un peu. Avant de manifester, 10 minutes d'immersion obligatoire dans un pays en guerre. Après ces 10 minutes, voilà, vous pouvez maintenant manifester. Non, c'est sûr, ça ne passera jamais. Mais laissez-moi quand même rêver et poursuivre avec courage et détermination ma mission pour l'ouverture des esprits et la mise en perspective des situations de chacun.
Voilà, on va pas commenter le commentaire en quelque sorte et la chronique de Marion, qui a toujours un peu cette distance humoristique qui aurait été appréciée de nos auditeurs. Voilà, à travers ces images difficiles, ces moments difficiles que vous traversez. Alors, dans ces moments difficiles que vous traversez, vers lesquels vous allez, Benjamin Courlet, vous avez des collaborateurs, vous avez des chefs, vous avez des gens sous vos ordres qui sont des humanitaires comme vous. Est-ce que, comme pour les pompiers, comme pour toute personne qui porte secours, la question de la sécurité est une question première, et pourquoi ?
Alors effectivement, c'est bien évidemment la base de tout, puisque qu'ils soient secouristes en France, vous avez parlé des pompiers, ou à l'étranger, avant d'avoir l'ambition d'être utile et d'être efficace, il faut tout simplement rester en vie, et au-delà de sa propre vie, il faut également être dans des conditions psychiques suffisantes pour faire un travail de qualité. Donc c'est effectivement quelque chose qui est primordial et qui finalement dépasse notre propre personne. Parce que si un incident majeur venait à toucher un membre d'une ONG, il est extrêmement fréquent que ce soit toute l'ONG qui soit impactée, qui soit contrainte de suspendre temporairement ses activités, voire même de quitter la zone. Et dans certains contextes, quand je parle d'incidents majeurs, ça peut par exemple être un décès ou un kidnapping, c'est même l'ensemble des ONG internationales qui peuvent se voir impactées.
Oui, donc, parce que vous avez une valeur finalement, vous avez une valeur monétaire à l'égard de certains groupes. Si on vous kidnappe, on va pouvoir demander une rançon peut-être.
Alors effectivement, selon les contextes, effectivement certains groupes groupes armés sont toujours... font du kidnapping un mode opératoire pour des raisons souvent politiques. Et à ce titre, tout étranger, qu'il soit humanitaire ou acteur privé, peut avoir une valeur, qu'il soit symbolique ou financière. Mais finalement, les plus grands risques auxquels sont confrontés les humanitaires aujourd'hui, bon, on pense souvent aux risques les plus spectaculaires, justement le terrorisme ou des attaques violentes. Finalement, un petit peu comme en France, les risques qui causent le plus de morts ou de blessés restent les accidents de la route et restent les maladies telles que le paludisme. On est sujet au même titre que les communautés dans lesquelles auxquelles on vient porter assistance, et voilà, on garde en tête que par exemple le paludisme fait énormément plus de morts chaque année que tout acte terroriste. Donc on essaie de prémunir nos équipes de l'ensemble de ces risques-là. Après, bien évidemment, il y a des mesures de mitigation particulières dans des zones de guerre où là certains groupes ou certains individus peuvent s'en prendre aux humanitaires pour des questions politiques, financières, avec un degré de violence différent des pays. Donc, mais ça reste effectivement une problématique extrêmement importante, avec également des évolutions de mode opératoire ou de ciblage selon les pays et selon les périodes.
Prenons un exemple concret qui vous vient à l'esprit de protection comme ça mise en place pour éviter un kidnapping.
Alors la particularité déjà des ONG par rapport aux autres acteurs, c'est que par définition, une ONG n'est pas armée, n'est jamais armée et ne sollicite jamais l'aide de militaires.
Jamais.
Jamais.
Jamais. Quoi qu'il se passe.
Alors oui, alors quoi qu'il se passe, si effectivement il est possible en extrême urgence, si par exemple on a des personnels qui sont directement menacés par un groupe terroriste, il est effectivement possible de solliciter l'aide de l'armée régulière pour intervenir, comme ça peut être le cas effectivement même en France dans une prise d'otage ou
n'importe lequel citoyen.
Voilà. Oui. Mais effectivement, la grande particularité est celle-ci, c'est que nous n'avons jamais recours à du personnel armé, ce qui fait que finalement notre moyen de protection reste notre cerveau. Ce ne seront jamais les armes. Et donc, ce qui veut dire qu'on va devoir, la plupart du temps, négocier avec les différents groupes, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, les groupes armés pour les faire accepter notre présence, donc pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions.
Une négociation au préalable, en quelque sorte.
Exactement, des négociations avant de mettre en œuvre des activités, mais ensuite tout au long des activités pour garder des relations de confiance avec elle.
Et surtout, mais donc ça veut dire, pardon de vous couper, que avant même de faire venir vos équipes sur le terrain, vous allez auditer une situation, vous allez prendre contact avec les autorités légitimes locales pour vous faire accepter, avoir votre visa d'entrée, etc. Mais quelque part, vous allez prendre aussi langue avec je ne sais quel groupe armé, potentiellement terroriste, pour essayer de vous faire accepter, de vous faire adouber par eux.
Alors, il s'agit pas de se faire adouber, il s'agit simplement de qu'ils nous laissent travailler.
Et qu'est-ce que vous allez leur donner en échange? Pourquoi vous autorisez-ils à travailler?
Alors, la seule raison pour laquelle ils vont nous laisser travailler, parce que bien évidemment, il s'agit pas de les payer, il s'agit pas de leur donner quelque type de rétribution, mais simplement, on va leur expliquer quel sera notre impact sur la population vivant dans les zones qu'ils contrôlent ou qu'ils espèrent contrôler. Il y a également un intérêt certain pour eux, notamment quand on travaille pour une ONG médicale, de leur expliquer, si par exemple on prend un pays en situation de conflit, le fait de soigner, de prendre en charge l'ensemble des parties prenantes, c'est également quelque chose qui peut nous aider pour nous faire accepter par l'ensemble des parties. En revanche, ça c'est quelque chose d'important. Si une des parties finalement ne respecte pas ses engagements et décide, par exemple, venez à nous interdire de soigner l'autre partie prenante, là, il est très clair que l'ONG ne sera plus en capacité de respecter son mandat. Donc, ça peut justifier le départ et le retrait de l'ONG. Donc, il s'agit de leur expliquer notre mandat, d'expliquer également l'intérêt qu'ils auront à nous laisser travailler, que ce soit en faveur de la population, mais également en leur faveur. Et dans ce cas, effectivement, ça nous assure, entre guillemets, parce que c'est quelque chose de sensible, mais ça peut nous permettre de travailler dans les conditions les meilleures possibles.
Ça vous est déjà arrivé de devoir quitter, justement, pour cette raison, un terrain d'action?
Effectivement, oui, ça nous arrive. Alors, c'est toujours...
On peut dire quand, où?
Non, pas forcément, mais bon. C'est toujours un déchirement parce que, encore une fois, le but d'une ONG est d'avoir le plus grand impact possible en direction de ceux qui souffrent. Et bien souvent, ce sont les civils qui souffrent en premier chef. Mais effectivement, si on considère que la sécurité de nos personnels, qu'ils soient internationaux et nationaux, mais également la sécurité de nos patients n'est plus assurée, il est possible en dernier recours de devoir quitter la zone. Donc c'est jamais simple à prendre. C'est vraiment une situation qu'on prendra en dernier recours et qu'on souhaite éviter au maximum, notamment à travers la négociation permanente avec l'ensemble des acteurs.
Un échec.
C'est un échec. Après, est-ce que c'est notre propre échec en partie, mais malheureusement, Alors, on est dans un monde complexe, dans des situations extrêmement complexes, et donc certains ont un intérêt à ce que toutes les ONG partent pour ne pas aussi avoir de témoins. Donc, on doit s'adapter à chaque situation.
Bon, on s'écoute de la musique. Haïti Bang Bang,
très bien.
Karimi,
excellent.
Allez.
Mes amis, ça fait des hommes pas ouais, pays moi changé couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment, figuili ma que misère. Tout pito ferme des jeunes, fais semblant ça va changer. Nous pito ferme des jeunes, dis petit pas nous pas tourner, mes amis. Haïti, moi, oh,
sans moi, c'est lié.
Dis-moi qui s'en voit le faire.
Faut changer mentalité, moun, yo.
Pays en danger.
Pas qu'une personne qui dessine les bons pieds.
Oh, yo, yo, nous pito ferme déchets. Fais semblant, ça va changer. Nous pito ferme déchets. Dis petit pas, nous pas tout neuf, les amis.
Vous êtes dans Human avec Benjamin Courlet, un urgentiste de l'humanitaire. Alors, on parlait, Benjamin Courlet, d'ingérence humanitaire. Et vous me disiez, mais quand on, avant de quitter un pays, par obligation, on essaie évidemment de l'éviter. Et pour essayer de l'éviter, on fait, comme on dit aujourd'hui, du plaidoyer. Terme que même les avocats n'osent plus employer. Qu'est-ce que c'est un plaidoyer humanitaire ?
Alors un plaidoyer, c'est tout simplement notre capacité à influencer un décideur en lui apportant des évidences. Donc des évidences en motivant nos messages par une réalité vécue par des populations en souffrance.
On peut prendre un exemple concret ?
Oui, alors ça peut être par exemple donc si on dans une zone de conflit, ça peut donc être avoir des messages, avoir des relations avec encore une fois les groupes armés pour leur expliquer notre mandat, pour les amener à nous laisser travailler dans des bonnes conditions. Ça peut être également des plaidoyers qui visent à changer les lois d'un pays. Alors, par exemple, dans certains pays où donc que ce soit l'avortement ou l'accès à certains traitements peut être interdit, effectivement, on peut échanger avec les autorités régionales ou nationales, voire même faire une communication internationale pour amener les lois à changer et donc pouvoir enfin apporter un service à un groupe de population en souffrance. Ça peut être, par exemple, pour d'autres ONG, si une minorité, qu'elle soit ethnique ou qu'elle soit régionale ou géographique ou même sexuelle, par exemple, subit des discriminations, bah effectivement, un plaidoyer pourra permettre d'améliorer la situation et en faisant en sorte que les autorités adaptent leur loi pour être sûr de toujours respecter les droits de l'homme et la dignité de chacun. Donc c'est un moyen d'action que certaines ONG utilisent beaucoup plus que d'autres. Hein. Il peut faire partie ou non du mandat de ces ONG, mais c'est quelque chose qui n'a pas toujours effectivement l'impact recherché. On est souvent plus ambitieux les objectifs qu'on atteint, mais il peut néanmoins faire changer les choses et véritablement changer la vie des personnes dans le besoin. Donc c'est un moyen d'action comme un autre qui peut être quand même extrêmement impactant et en tout cas complémentaire à des opérations plus opérationnelles, plus concrètes sur le terrain.
Ça veut dire que ça marche parfois?
Exactement. Il y a eu notamment, donc là, on parlait d'avortement ou de ce qu'on appelle des grossesses non désirées. Il y a par exemple la République démocratique du Congo qui a adapté sa loi pour permettre justement aux personnes en situation de danger, de femmes enceintes en situation de danger, d'avoir accès à l'avortement sécurisé de manière plus facile. Donc ça, tous les plaidoyers s'appuient, encore une fois, comme je le disais, sur des besoins humanitaires, mais également sur des groupes d'individus dans les pays dans lesquels on intervient. Ce ne sont rarement les ONG internationales qui initient des messages, mais elles sont là davantage pour relayer des messages, pour faire passer des messages qui, eux, proviennent de la population. Et simplement, on travaille en tant que porte-voix pour essayer d'augmenter l'impact, l'influence de ces des communautés qu'on vient représenter ponctuellement en direction des décideurs.
Et c'est évidemment plus légitime dans ce cas-là. Je veux dire que quand l'ONG s'appuie sur une demande qui vient, y compris, par exemple, vous l'avez dit, d'une minorité sexuelle, c'est plus légitime d'intervenir et de faire du plaidoyer que de venir plaquer je ne sais quelle idéologie occidentale concernant tel ou tel sujet sur une population qui traditionnellement n'y aurait pas pensé d'elle-même.
Exactement, on est là encore une fois pour répondre à des besoins qui sont clairement identifiés ou tout simplement répondre à une demande d'appui, que ça soit de la population ou des autorités, et en aucun cas de suivre un agenda de manière déconnectée de la réalité des personnes. En tout cas, toute ONG sérieuse basera son intervention, qu'elle soit encore une fois opérationnelle ou de plaidoyer, sur les populations qu'elle souhaite aider et pas de manière complètement offshore pour suivre un agenda qu'il soit politique ou religieux ou philosophique.
Voilà. Alors voilà, on parle urgence, on parle sécurité avec vous, Benjamin Courlet. Est-ce qu'il y a, comment dire, des qualités, des formations qui sont indispensables pour que les personnels, aussi bien d'ailleurs les personnels locaux, puisque on a oublié de le dire, vous travaillez souvent et même majoritairement avec des personnels locaux que vous rémunérez, que avec les personnels qui sont eux des expatriés qui viennent en général des pays occidentaux, hein, pour aborder le schéma nord-sud, mais enfin parfois c'est aussi sud-sud ou nord-nord évidemment. Voilà, quelles sont les formations que vous suggérez pour les gens qui le font ou pour les gens qui veulent le faire?
Alors effectivement, déjà, je pense qu'il est extrêmement important, pardon, de rappeler que la majorité des victimes, quels que soient que ce soit des risques, on va dire, de sûreté, c'est-à-dire des risques d'origine humaine, sont très majoritairement des collègues humanitaires nationaux, c'est-à-dire donc qui travaillent dans leur propre pays.
Donc c'est eux qui sont le plus en danger.
Exactement.
Pourquoi? Voilà.
Pourquoi? Alors, selon les pays, la situation, les raisons peuvent être très différentes. Je dirais que de manière plus générale, la vie d'un international est souvent considérée comme ayant plus de valeur et que parfois certains groupes armés n'osent pas tout simplement attaquer un international. Après, il y a aussi une raison qui est extrêmement simple, c'est une raison presque statistique. C'est que la plupart des ONG internationales travaillent avec en moyenne 10 fois plus de collègues nationaux que de collègues expatriés. Donc, c'est une loi de probabilité.
Sur ce sujet, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, on reviendra ensuite à la formation. Il me venait l'idée, que vous devez vivre aussi. Bah, les expatriés sont plutôt bien payés. En tout cas, ils sont payés selon les normes occidentales. Et ceux qui travaillent sur le terrain sont payés, j'imagine, selon les normes locales. en fonction de du droit et des habitudes qui existent. Est-ce qu'il n'y a pas là une distorsion importante dans le vécu quotidien?
Alors encore une fois, oui, on peut regretter cette inégalité qui finalement existe, qui est basée, comme vous l'avez dit, sur les lois nationales. Hein, c'est-à-dire que envoyer par exemple un expatrié français en mission, on doit respecter la loi française. Après, il y a différents statuts. Hein, on peut être bénévole.
Vous voulez dire y compris le SMIC, etc.
Voilà, on peut être bénévole, on peut être volontaire, c'est-à-dire être défrayé. Oui. Ou si on est salarié, on doit respecter la loi française. Et donc, la même chose, en tout cas en termes de salaire minimum, on doit respecter ces lois.
Et quand c'est un bénévole qui part de Paris et qui va à Ouagadougou ou ailleurs, on n'a pas d'obligation de le payer à quelque niveau que ce soit.
Alors après, si effectivement on part sur du bénévolat pur et simple, oui. Effectivement la personne est bénévole, il y a même, encore une fois, tout dépend de l'ONG, on a même maintenant des associations qui font payer les frais de déplacement à leurs bénévoles, bon, voilà.
Mais tourisme, si on reste tourisme humanitaire là. Hein.
Bon voilà, parfois ouais. La différence peut être peut-être un petit peu fine, si on parle en revanche des ONG internationales, ONG reconnue, au-delà d'ailleurs de la rémunération, elle propose quand même un paquet de services qui permet à la personne d'assurer ses soins de santé, d'assurer une assurance, d'assurer, voilà. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Pour revenir à la différence qui peut exister entre des rémunérations d'expatriés et de personnels nationaux, alors déjà, c'est pas toujours le cas, voire même parfois ça peut être inversé, parce que pour différentes raisons, mais dans beaucoup de pays, par exemple, un médecin, si on prend un médecin d'un pays d'Afrique, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a une position donc de médecin, une position importante, il est fréquent que cette personne ait un salaire plus élevé que par exemple un expatrié en première mission. Voilà, parce qu'on valorise également l'expérience, le métier et la fonction. Donc il est fréquent qu'effectivement des collègues nationaux aient des rémunérations supérieures à celles des expatriés selon les ONG.
C'est pas majoritaire tout de même.
C'est pas majoritaire parce que il y a également énormément de collègues nationaux qui occupent les fonctions, on va dire, les moins qualifiées. Notamment, la plupart des ONG ont besoin de chauffeurs, ont besoin de gardiens, ont besoin de cuisiniers. Ce sont les fonctions de niveau le plus bas, alors qu'effectivement, un expatrié doit déjà avoir un niveau d'expertise, donc de formation important, pour pouvoir avoir une valeur ajoutée sur le terrain.
D'accord. Alors revenons à notre affaire de formation, parce que je vous ai interrompu sur cette question des différences de salaire entre les deux types de travailleurs humanitaires, comme vous les qualifiez et comme vous qualifiez vous-même, je l'ai observé, vous considérez comme un travailleur humanitaire. Donc revenons à la question de la formation.
Alors effectivement, si on parle notamment de sécurité ou de contexte d'urgence, la formation est extrêmement importante puisque ce sont des situations complexes avec un niveau d'exigence extrêmement élevé. Donc au-delà de l'expérience initiale qui est capitale, il est extrêmement important donc d'évoluer progressivement vers ce type de contexte d'urgence. Et également, la plupart des ONG mettent en œuvre des formations spécifiques pour leur personnel. Notamment des formations de sécurité. Donc encore une fois, une formation de sécurité pour un humanitaire, ce sont des formations qui vont pas nous apprendre à gérer des armes, puisque comme on l'a dit, c'est absolument prohibé de nos opérations, mais ça va nous amener à mieux analyser un contexte, à mieux analyser les risques auxquels on va être sujet et à mieux s'en prémunir. Donc à travers notre attitude, à travers notre comportement, notamment à travers une véritable curiosité culturelle et intellectuelle, on va essayer de s'intégrer au mieux dans le contexte dans lequel on travaille, pour tout simplement comprendre notre environnement et être moins fragile, moins vulnérable à tout un type de risque. Donc ça, ce sont des formations qui viennent s'ajouter à une expérience personnelle et qui vont pouvoir nous aider à être plus en sécurité.
Voilà, dernière question, Benjamin Courlet. On aura fait un tour d'horizon. Donc, on est un an et demi après avoir débuté, cette émission. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission Human, de cette initiative Human comme la nôtre? Qu'est-ce qu'elle peut apporter au terrain de l'humanitaire et de l'écologie?
Alors, je pense qu'important toujours d'expliquer aux gens ce que nous faisons, bien que l'humanitaire soit extrêmement varié, mais c'est d'incarner un petit peu ce secteur qui peut paraître un peu fantasmé ou un peu loin pour les gens qui nous écoutent. Donc simplement leur dire qu'il y a des hommes derrière qui se posent énormément de questions et qui sont pas exceptionnels, qui sont pas des super-héros, mais des gens lambda qui ont simplement fait un choix de vie particulier. Donc peut-être voilà mieux être compris et essayer si autant que possible de souligner le fait que quel que soit peut-être le pays d'origine des gens, bah finalement on a quand même de manière extrêmement fréquente on a quand même les mêmes problèmes, les mêmes projets, les mêmes difficultés, et essayer peut-être de réunir les gens au-delà effectivement de ce qui peut d'apparence nous opposer.
Créer de l'espoir.
De l'espoir, je pense que chacun a la capacité de le créer, mais en tout cas de donner éviter les peurs, sans doute. Au moins éviter les peurs en disant que voilà, il y a des expériences et des gens exceptionnels partout et qu'il faut pas se cacher derrière des catégories et des cases.
Benjamin, merci.
Merci à vous.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.